Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Tu fais du Star Wars, tu fais du super-héros français, c'est presque le rêve d'un gamin qui se réalise.
C'est exactement ça. On touche des choses qu'on pensait inaccessibles et puis du jour au lendemain, on se retrouve avec sur les bras nos rêves d'enfant. Donc c'est à la fois plaisant et en même temps c'est vachement stressant parce qu'on se dit j'en ai rêvé mais maintenant est-ce que je suis capable de le faire? Ça c'est une autre question. Mais c'est vrai que c'est un grand rêve de gosse là.
Tu l'as dit, tu fais partie de la génération Strange.
Ouais.
Enchanté, moi c'est génération Albator.
Moi aussi.
Dans ce cas, deux, hein. As-tu suivi les Star Wars version Marvel par Carmine Infantino qui paraissait dans Titan?
Oui. Évidemment, moi je suis un gros fan, très très gros fan. Thierry Mornay ne cesse de m'envoyer les omnibus et les big books de Carmine Infantino sur les Flash et compagnie. J'avais la chance quand j'étais môme d'avoir des amis et une partie de ma famille qui m'envoyaient des comics VO. C'est-à-dire que la gamme DC en France était assez peu travaillée.
Oui. Hein.
On a vu surtout du Marvel et du Star Wars. Moi, j'avais les Flash qui arrivaient dans mon petit ballot de manière mensuelle. Et Carmine Infantino, pour moi, c'était fantastique de dynamisme, de mise en scène. Et puis, j'adorais Flash, le personnage Flash. Terminé sur les Star Wars, oui, bah oui. Mais moi, je suis de la génération qui a vu la guerre des étoiles au cinéma. Ouais, c'est tout ça date. Bah, quand tu rentres dans un cinoche, en ne sachant pas trop, parce que quand on a été, moi, quand je suis allé voir avec ma mère, Star Wars, ma mère est restée très extérieure. Hein, elle a moins capté le truc. Moi, je suis rentré dans ce cinoche-là parce qu'on en entendait parler, mais il n'y avait pas ce poids qu'on peut avoir maintenant où le plaisir de découvrir un film est quasi défloré par tout le plan com qu'il y a autour.
Oui.
Là, dans les années, fin des années 70, il n'y avait quasi pas de plan com. Guerre des étoiles, on savait que c'était cool parce qu'on en parlait dans les cours d'école, parce que d'autres avaient été voir et avaient dit ouais, c'est génial, génial. Donc, du coup, moi, j'avais été voir et je suis rentré dans cette salle-là, innocent. Offert. Et je suis sorti de cette salle, mais moi j'étais encore dans le fond comme Millennium. Voilà, c'était parti. Quand on se prend ça dans la figure, quand on est môme, moi en 79 j'avais 10 ans, voilà, t'en restes traumatisé, ça laisse des traces, des stigmates. Et du coup, ouais, tu essayes de prolonger ce plaisir non seulement par les films, les séquelles, mais aussi par le comics, par les romans, par tout ce que tu peux avoir, par les jouets. Voilà, c'était l'âge. Moi j'avais des tonnes de jouets Star Wars. J'avais un gros Faucon Millennium que j'ai fracassé un jour parce que je voulais faire une grosse bataille. J'avais mis des pétards mammouth et le machin il a fait boum. Ouais, on essaye de prolonger ça par tous les biais et dont les Star Wars Infantino.
Je lis ton blog et vu le ton employé, j'aime pas les parents, j'aime pas le cinéma, etc, etc. Tu serais pas un peu antisocial, tu perds ton sang-froid?
Ouais, je suis très trust, moi. J'utilise le web et la communication sur le web pour éviter de taper mes gosses. C'est-à-dire que toute la haine qui est tapie en moi, j'en ai beaucoup, hein, je la délivre sur le net. J'emploie tous les réseaux sociaux pour cela. Je pars du principe que je déteste les gens et après les gens, il faut qu'ils se rattrapent.
Si j'ai bien compris, pour faire de toi ce qu'on veut, il faut user de fraises tagada et de plaques bretonnes.
Ouais. les bretons, quand tu fais de la BD, de toute manière, c'est inévitable. Ils sont partout. Ils sont partout, ces foutus putains de bretons. C'est incroyable. Et les fraises tagada, ouais. Moi, j'utilise les fraises tagada quand j'ai des montées de tension. Je me dis, allez, ferme ta gueule, bouffe-moi. C'est mon côté. Je sais pas si vous avez bien vu Bienvenue à Zombieland.
Oui.
Woody Harrelson, qui ne cesse de chercher des Twiki.
Ouais.
Voilà, parce qu'il a besoin de ça. Ben, moi, c'est ça. Moi, c'est les fraises tagada. C'est-à-dire, ça m'évite d'avoir envie de tuer mon prochain. Ce qui m'arrive assez régulièrement.
Lu sur ton blog, le fait d'aller en Bretagne te fait écouter des Requiem. Et Nantes avec de la SF, ça donne quoi? John Williams?
J'écoute plus de musique dans les trains, c'est infernal. Non, je lis maintenant dans les trains, j'ai décidé de plus écouter de la musique et d'être actif ou de travailler dans les trains. Non, je n'ai rien écouté pour venir à Nantes. J'apprécie le festival où il n'y a pas de musique beuglante en permanence. C'est très agréable parce que d'habitude dans les festivals il y a toujours une bande son de merde où il y a soit une phone radio à fond les manettes et là ça devient insupportable, ça raye le conduit auditif. Non, j'ai rien écouté. En rentrant j'écouterai peut-être un Requiem ou un DC, un Ray, mais
tu aimes travailler en bande?
Ouais, j'adore ça. Ah, j'adore ça, mais j'adore monter des trucs, enfin monter, je monte rien, et participer au montage de trucs, d'équipes comme ça, des gens qui viennent d'univers différents, d'espaces géographiques différents, et qui se rencontrent de manière impromptue, qui montent des projets, et c'est pour ça aussi que je viens en festival, parce qu'il y a des choses qui se montent comme ça, sans prévenir, sans qu'il y ait de calcul ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on rencontre des gens, moi je trouve très important que humainement ça passe avant de travailler avec les gens, on rencontre des gens qui sont vachement sympas, qui sont d'une richesse monstrueuse, et qui disent, bah, tiens, regarde, écoute, je pense à ça et tu dis ouais, ce serait génial. À ce moment-là, il faut faire attention de ne pas dire oui tout de suite parce que après, on se retrouve avec des plannings chargés. J'adore travailler en équipe. Pour l'instant, non, rien.
Dans ta fructueuse carrière, peut-on dire qu'il y a un avant Jean-Luc et un après Jean-Luc ?
Ouais.
Et est-ce que c'est pareil pour David Chevel ?
Oui, totalement. Mais moi, j'ai eu la chance. Je touche du bois. Ah, merde, il n'y a pas de bois. Si, touche du bois compressé, merdique. Dans ce métier-là, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui, humainement, sont d'une richesse monstrueuse. On a un métier où, on a la possibilité de choisir avec qui on travaille. C'est très agréable. On ne nous impose pas qui que ce soit. Je trouve qu'il est important que, humainement, ça passe un minimum. On ne fait pas ce métier-là pour se faire des copains. Hein. C'est pas un club de rencontres. Mais il faut qu'un minimum, on s'entende et qu'il y ait quelque chose qui fonctionne, qu'il y ait quelques atomes crochus parce que, grosso modo, c'est les personnes avec qui tu bosses quasi au quotidien, tout le temps. Et si, humainement, ça passe pas... Ce métier peut devenir vite une souffrance permanente. Et donc, il y a eu un avant et après Jean-Luc. Jean-Luc, la rencontre avec Jean-Luc a été essentielle. Ce sont des personnes qui ont été, d'une certaine manière, des guides. J'entendais hier Scott Charleston qui disait que les scénaristes étaient un petit peu les mamans. Et c'est vrai, il y a un côté... les scénaristes ont un regard extérieur et aussi les dessinateurs sont très, très investis dans leur taf et sont un peu sur les nerfs ou sur l'affectif. Et Jean-Luc, moi, ça a été une rencontre. Il a été là au moment où il n'y avait pas grand monde autour de moi. Alors, c'était un moment de doute et compagnie. Et Jean-Luc a été là, alors qu'il ne me connaissait pas, ni de vue, ni de su. Il a été là pour me tendre une main amicale, parce que moi, j'étais à deux doigts de me dire, bon, j'arrête ce métier-là, j'en pouvais plus. J'ai commencé par faire des collectifs. Et c'était une sorte de test réciproque. Il me testait autant que je le testais, pour voir comment ça fonctionnait, comment il marchait, comment humainement il se comportait. Parce que voilà, dans ce métier, il y a aussi des caractères qui sont un peu ingérables. Et puis Jean-Luc, ça a été un vrai bonheur de bosser pour lui en tant que directeur éditorial. Et après, en tant que scénariste, quand on a fait Hannibal et puis maintenant Le Sang du Dragon, ça a été un vrai bonheur de rencontrer ce mec-là. Parce que humainement, c'est quelqu'un d'hyper riche. Créativement, c'est un mec qui te fait une confiance totale. Il te dit, écoute... Je te file les clés, vas-y, amuse-toi. Le but du jeu avec Jean-Luc, c'est que tu t'amuses. Et lui, il s'amuse et il veut que tout le monde s'amuse dans le processus. Du coup, ouais, c'est très important. Et David, bah, c'est pareil, David, c'est quelqu'un que je lis depuis que je suis môme, je suis pas aussi jeune, il est pas aussi vieux que ça. Mais bon, voilà, depuis que j'ai repris la bande dessinée en lecture après la fac, c'est un mec que je lisais avec Jérôme, avec Fred Simon. C'est un mec qui s'est un peu éloigné de l'écriture via sa posture de directeur éditorial. Il reste sur 2-3 scénarios, mais voilà, c'est quelqu'un que, en tant que scénariste, j'admirais, que je lisais. Mais que je croisais comme ça en festival, quand on le voit, David, on n'a pas envie de lui faire la bise parce qu'il a une tronche, on dirait qu'on vient de lui marcher sur les pieds. Donc, c'est un mec que je côtoyais, mais sans avoir fait la démarche de le solliciter ou quoi que ce soit. J'évite toujours parce que on a toujours l'impression qu'on calcule les choses et qu'on est là pour obtenir des choses de quelqu'un. Alors que c'est vraiment pas mon cas. Donc, c'est quelqu'un que je croisais depuis assez longtemps, que je voyais et on parlait comme ça, mais sans plus. Le projet masqué a fait que les choses se sont mises en place et au fur et à mesure, on s'est côtoyé, on s'est caressé dans le sens du poil, des fois en rose poil. On s'est dit, mais ce mec-là, il a un caractère aussi merdique que le mien, mais je l'adore. Et donc, ben voilà, moi j'aime beaucoup bosser avec Serge et avec David. C'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est des choses qui sont c'est extrêmement important, c'est marquant dans une vie d'auteur, c'est des choses qui sont marquées.
D'un côté, tu es employé par Jean-Luc Istin, tu dis « j'ai une totale confiance en Jean-Luc ». De l'autre, tu es employé par David Chevel qui dit « les auteurs, c'est feignasse ». Pas trop de problèmes psychologiques ?
Si, on passe son temps sans gueuler, mais moi je trouve ça sain. Enfin bon, voilà, j'ai un caractère de merde, je le sais, je l'assume. David est un caractère de chiotte. Donc c'est sûr que de temps en temps, ça, on se rend dans le chou. David est directeur éditorial, donc il n'est pas auteur directement de...
Il est directeur éditorial de concept.
Voilà, exactement. Moi, j'appelle ça des grands titres pour pas faire grand-chose. Il a un œil, il est très présent, c'est vachement bien, c'est super agréable. Hein. J'arrête de dire des bêtises, mais c'est très agréable parce que New Coach, il a ce regard extérieur qui nous dit, bah, écoute mon coco, là tu es en train de... Quand on a la tête dans le guidon, un travail surtout sur Masqué, on est vraiment dans la saccade. Avoir un regard extérieur et un regard professionnel, parce que David, il y a le parcours qu'il a et il est vieux. Donc il a eu le temps d'avoir un petit peu d'expérience. Donc avoir ce regard extérieur qui te dit, bah, écoute Coco, lève le nez un peu et regarde, tu vois pas, là, t'es en train de te planter, te mettre dans un truc. Pour avoir ce regard, parce que c'est toujours un regard qui est très violent hein, pour un auteur, de se dire, là t'es en train de faire vraiment de la merde, c'est très violent pour un auteur. Hein. Mais il faut qu'on ait ce regard extérieur, et ce regard extérieur, qu'on lui donne cette légitimité. Et David a toute la légitimité, j'ai une totale confiance en le regard de David. Ça n'empêche pas de temps en temps de lui dire, mais tu me fais chier là. Mais c'est très agréable, très très agréable.
Vie dégueulante encore en tant que dessinateur, c'est quoi ton boulot? Storyboard, ancrage, tramage, etc. etc.
Ça dépend des projets. Quand j'ai commencé la BD, j'ai fait typique franco-belge et j'avais toutes les techniques de style ligne claire. Et puis après, j'ai fait des travaux avec de la peinture et tout le bazar. C'était un foutoir sans nom. J'ai flingué mes poumons avec des produits chimiques en faisant sur les fléaux. Et puis depuis quelques années, comme moi, je suis un gros lecteur de comics, que j'aime beaucoup ça. Et le protocole comics, c'est-à-dire la répartition des tâches, m'intéressait. Et par hasard, j'ai croisé un des rares encreurs français qui travaille aussi pour la Marvel et pour DC, qui s'appelle Julien Ligonard, Berthe. On a discuté et puis les choses se sont imbriquées de manière assez naturelle. Moi, j'étais désespéré par mon ancrage. Lui, c'est un encreur pro qui fait un boulot monstrueux. Et puis du coup, on s'est dit, on ferait bien une équipe. Et puis maintenant, ça va faire 6 tomes, 7 tomes qu'on travaille ensemble avec Julien. Donc on commence à être un vieux couple. Ouais, ça fait 3 ans, 4 ans. Ça semble peu, mais dans un temps d'auteur de bande dessinée, c'est long. On a appris à travailler ensemble et du coup, on a des raccourcis qui sont extrêmement confortables pour les uns pour les autres. Et donc du coup, ça fait 2-3 ans que je ne fais plus que le storyboard. Enfin, je fais la mise en scène. Je fais la mise en scène et le crayonné. Et donc Julien, après, fait une sortie sur imprimante d'un bleu, ce qu'on appelle un bleu, et il encre directement. C'est un protocole qui est extrêmement classique dans le comics pour des nécessités de parution, parce que le comics est en rythmique de parution mensuelle. Donc du coup, comme il faut sortir 22 à 23 planches, voire 24, il faut une répartition des tâches, parce que sinon, si un auteur gère entièrement les planches de la mise en scène jusqu'au l'ancrage, il n'aura jamais le temps de fournir 22 planches pour les parutions mensuelles. Donc du coup, aux États-Unis, depuis les années 30, il y a toujours eu cette logique de répartition de travail. En France, c'est moins usité, encore que dans les années 70, ça s'était plus répandu, parce que tout simplement, il y avait aussi cette parution mensuelle. Depuis la disparition des mensuels en France, ça se fait moins. Donc on a réinvesti ce genre de protocole. Ça demandait une adaptation des éditeurs qui ne comprenaient pas. À un moment, ils ne comprennent pas, mais on lui dit... Au lieu d'attendre un an pour avoir ton album, tu vas avoir ton album en 4 mois. Ça t'intéresse? Il dit oui. Et là, donc, il a dit, je m'en fous, je comprends rien, mais c'est pas grave, 4 mois, ça me va.
Le tome 4 de Masqué sort bientôt. La délivrance, enfin, ou j'en veux encore?
Voilà pourquoi David vient. Bon, il n'y a pas de version officielle ou de version officieuse. La création de Masqué est très ambiguë. Ça a été un vrai moment de bonheur de travailler donc avec Serge, que je lisais quand j'étais môme. Et lui, il est vieux. Faust, tout ça, les hauts lieux. Et travailler sous la direction de David, ça a été un vrai bonheur. Mais en même temps, le fait d'avoir mis en place un nouveau protocole, comme on disait tout à l'heure, le fait de travailler à l'encreur, le fait qu'on avait des deadlines de parution très, très rapprochées, ont fait que ça a été une putain de souffrance. Un vrai bonheur de faire ces planches-là, mais le fait d'être obligé, d'une certaine manière, d'avoir un certain nombre de rendus, on s'était lancé le défi, un peu imbécile, de faire 4 tomes en un an, c'est-à-dire en franco-belge. C'est très lourd, c'est très lourd. Et moi, je suis en train de finir le tome 4, et c'est vrai que ça a été épuisant. Et quand on m'a parlé de faire une suite, un diptyque 5-6, de prime abord, j'ai fait « Non ! Plus jamais de ma vie ! Non, c'est bon, foutez-moi la paix !» Puis on en a rediscuté assez récemment, avec David et compagnie, et puis moi j'adore ce projet, voilà, il se trouve que j'adore ce projet, j'adore ces gens-là, et je me dis, oui, pourquoi pas. Maintenant, il va falloir qu'on discute des délais, parce que moi je ne veux plus le sprint qu'on a pu vivre ces derniers mois, je veux le faire dans le confort. Maintenant, on a lancé la série, on a installé ça auprès des lecteurs. La suite, bon voilà, il faut qu'on s'organise, on va en parler. Mais il y aura un 5 et 6, mais qui sera une sorte de nouvel arc. Comme on parle en comics, oui. Un nouvel arc. Ceux qui ne voudront pas aller s'arrêter aux 4, ils pourront très bien s'arrêter aux 4, ils ne manqueront rien. Ceux qui veulent poursuivre et continuer de suivre cet univers, parce que Serge, dans sa tête, il a un univers. Voilà. Le super-héros est un thème qu'il traite depuis longtemps, via les brigades et autres. Il a plein de choses à raconter sur cet univers. C'est évident qu'en 4 tomes, on ne peut pas être exhaustif sur tout ce qu'on...
Surtout dans l'esprit de Serge Lehmann.
Voilà, exactement. Serge, quand tu lis ses scripts, il dit c'est frustrant parce qu'on sait qu'on n'aura pas le temps d'aborder tous ces thèmes-là. Et à un moment, tu es obligé d'être synthétique et donc de ne faire que de l'allusion. Et c'est extrêmement frustrant. Et donc, du coup, c'est sûr que moi, j'ai envie de continuer à parcourir cet univers-là, que je maîtrise de plus en plus au fur et à mesure. Et donc, du coup, oui, a priori, on va continuer maintenant. On va définir quand et comment.
Merci beaucoup et puis bon courage pour la suite.
Merci.